Fidèles ou nouveaux venus, en Christ nous avons connu et nous avons la joie de pouvoir vous annoncer, à vous, que la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données avec abondance par Dieu. Et cela, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre cheminement de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse sur le chemin de votre vie. Avec ce soliloque de saint Augustin, nous nous tournons vers Dieu dans l'espérance que nous avons en lui. Si c'est par la foi que te trouve ce qui se réfugie auprès de toi, Seigneur, donne-moi la foi. Si c'est par la force, donne-moi la force. Si c'est par la science, donne-moi la science. Augmente en moi la foi, augmente l'espérance, augmente l'amour. Que ta bonté est admirable, unique, incomparable. C'est vers toi que je suis en route. Les moyens d'arriver jusqu'à toi, voilà ce que je te demande encore une fois. Car si tu nous abandonnais, c'est la mort. Mais non, tu ne nous abandonnes pas. Car tu es le bien que rien ne surpasse. Nul ne pourrait te chercher avec droiture sans te trouver. Te chercher avec droiture veut dire te chercher comme tu veux que l'on te cherche. Alors apprends-moi, Seigneur, à te chercher. Délivre-moi de l'erreur que, te cherchant, je ne rencontre rien d'autre que toi. Alors s'il est vrai que je ne désire rien d'autre que toi, donne-moi, Père, de te trouver. S'il existe en moi d'autres désirs, de vaines attentes, purifie-moi et rends-moi ainsi capable de te voir. Quant au salut de ce corps mortel, je ne sais en quoi il pourrait être utile à moi ou à ceux que j'aime. Je m'en remets donc à toi, Père, très sage et très bon. Pour ce corps, je te demanderai ce que tu m'auras suggéré en temps opportun. Mais je te demande une seule chose, tourne-moi vers toi, que rien n'entrave mes efforts pour te trouver. Permets que tant que je vis avec ce corps à conduire et à porter, j'arrive à pratiquer la tempérance, le courage, la justice, la prudence. Que j'aime de tout cœur et comprenne ta sagesse. Que je sois digne de t'accueillir en moi comme dans une maison. Que tu m'accueilles dans ton royaume, royaume de félicité. Amen. Et je vous propose de nous unir dans la louange avec le psaume 138. C'est le numéro 67 de notre psautier. De tout mon cœur, je viens chanter et t'adorer là, dans ton temple. Numéro 67.
Thank you.
En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » Et c'est fort de cette promesse qu'en toutes circonstances, nous pouvons nous tourner vers l'Éternel pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière d'Isaac de Ninive au 7e siècle. Mon Dieu, mon cœur est en peine. Donne-moi de rentrer en moi-même pour que de toute mon âme j'aille à ta recherche. Car sans toi, je suis privé de la source de tout bien. Ô Dieu bon, donne-moi ta grâce. Toi, Père, dans l'éternité, tu as engendré Christ, crée et renouvelle en moi les formes de ton image. Quand je t'ai abandonné, ne m'abandonne pas. Quand je suis éloigné de toi, sors à ma recherche. Conduis-moi dans ton pâturage, moi, ta brebis perdue, et avec les autres, nourris-nous de l'herbe fraîche de ta parole. Fais-nous goûter ta consolation, ta douceur, la vie, par ta grâce et ton amour de l'humain, ô Père de Jésus-Christ, notre Sauveur, dans les siècles des siècles. Amen. Et avec cet autre père de l'Église, Sérapion, nous nous tournons vers Dieu pour recevoir donc son aide et son secours. Ô Père, la main du Fils unique, la main qui enlève tous les maux, qui donne force et fermeté à tout ce qui est saint, s'étend sur cette humanité que tu aimes. Ce peuple en est béni de la bénédiction de l'Esprit, de la bénédiction du ciel, de la bénédiction des prophètes et des apôtres. Alors maintenant, que tous les corps soient bénis, que toutes les intelligences soient bénies, que tes enfants s'unissent par la bénédiction. Tous ensemble bénis par ton Fils unique, Jésus-Christ, par lui, gloire à toi et puissance dans le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose de chanter notre reconnaissance avec le cantique 387, « Le bon berger, le Dieu très haut est mon gardien fidèle ». À la fin de sa lettre aux Philippiens, Paul remercie chaleureusement les Philippiens, donc, pour la joie qu'ils lui ont apportée. Alors j'ai souvent, en lisant ces lettres de Paul, à la fin, il y a des remerciements, on n'y fait pas tellement plus attention qu'aux formules de politesse à la fin d'une lettre. Mais là, c'est un mot de saint Augustin qui a attiré mon attention sur ce qui réjouit tellement Paul dans ses mots aimables. Alors c'est vrai que les habitants de la ville de Philippe lui ont envoyé un bon coup de main, et il est en prison, c'est un coup de main matériel qui l'aide bien. Bon, il remercie, c'est normal. Mais le plus précieux, nous dit Paul dans ce remerciement, c'est leur intention. L'intention, c'est pour Paul le fruit de l'esprit qui est la source de tout. Le fait de penser à lui et de chercher ce qu'il pouvait faire. Alors c'est ça qui est ensuite a produit le geste. Et c'est ce que saint Augustin relève, et il ne le relève pas seulement dans une prédication, un article, où il étudierait ce passage. Il en parle dans ce livre qui est pour lui le plus important, les Confessions, où il essaye de chercher ce qui résume pour lui l'essentiel dans sa vie. Alors je vous propose d'écouter justement ce passage de Paul remerciant les Philippiens. Et ensuite d'étudier cette question. Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison d'un manque pour moi, en effet. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié comme à avoir faim, à être dans l'abondance comme à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la bonne nouvelle, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'a témoigné sa solidarité en se mettant en compte avec moi. Vous avez été les seuls à le faire. Car à Thessalonique déjà, plus d'une fois, vous m'avez envoyé ce dont j'avais besoin. Mais ce n'est pas ce que je cherche, les dons. Ce que je cherche, c'est que foisonne le fruit porté à votre compte. Et ce fruit, nous dit Augustin, c'est l'intention. Nous prions. Notre Dieu, tu nous as donné rendez-vous dans ta parole. Permets donc que nos rendez-vous secrets ou publics avec ta parole deviennent de vraies rencontres. Donne-nous l'émoi de l'amoureux qui devine la présence. Donne-nous l'élan de l'amoureux qui enserre et qui aime. Donne-nous la mémoire de l'amoureux qui retient dans son cœur tout ce qui a eu lieu et qui en magnifie la grâce et la gloire. Alors oui, notre Dieu, vivons ensemble la joie imprévue et la répétition régulière de nos rendez-vous avec ta parole. Nous te le demandons à toi, en Jésus-Christ, dont tout nous parle de toi par la force du Saint-Esprit. Alors je vous propose de poursuivre cette prière avec le chant du cantique 409, « Veille et prie et sois fervent ». 409.
Thank you.
conclut donc ses remerciements en disant « Ce n'est pas le don que je cherche, mais le fruit. » Le don, c'est donc le coup de main que Paul a reçu, et le fruit, c'est autre chose, c'est l'intention du geste, le fruit spirituel. Et c'est ce qui émeut Paul profondément. C'est cela, le fruit de l'esprit. C'est aimer, c'est s'intéresser à l'autre, c'est vouloir l'aider, chercher qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Le don n'est seulement qu'une conséquence. Et donc Paul et Augustin attirent notre attention sur l'intention. C'est ça qui change le monde. Alors cela me fait penser à cet extraordinaire début de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Alors on pourrait traduire ce passage en disant « Au commencement était l'intention, et l'intention était avec Dieu, et l'intention était Dieu, était divine. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. » Car en effet, ce qu'on traduit par parole ou par le verbe dans ce passage, c'est le « logos éternel », c'est en quelque sorte l'intention bonne et féconde de Dieu pour le monde et pour nous. L'intention créatrice, l'intention de vie de Dieu lui-même qui ensuite s'incarne dans notre chair, dans nos cœurs, dans nos pensées et puis ensuite dans nos actes. Et c'est là-dessus, sur l'intention, que Jésus travaille. Parce que l'intention, donc, fruit de l'Esprit de Dieu en nous, demande un certain travail pour être mise en avant, développée et qu'elle puisse s'exprimer. Il me semble que c'est important de relever pour nous l'importance de l'intention pour au moins deux raisons. C'est important parce que c'est pas facile d'arriver à donner à la personne que l'on aime ce qui effectivement la fera vraiment vivre. Il faut que ça tombe juste, pile poil, en rapport avec ce que l'autre est à ce moment-là, dans les circonstances. Et pour ça, il faudrait que nous soyons, comme qui dirait, un prophète extra-lucide, ou une prophétesse extra-lucide. Parce qu'il n'y a pas de règle absolue sur ce que nous devrions faire, si ce n'est d'être profondément dans une bonne disposition, et puis ensuite de faire au mieux. Ensuite, il me semble que c'est important de relever la place essentielle de l'intention, car nous n'arrivons pas toujours à donner, en fait, à rendre service. Peut-être que nous n'avons pas les moyens, peut-être que nous ne voyons pas comment faire, peut-être que nous n'arrivons pas à nous décider ou à nous mettre en route. Inutile de culpabiliser, finalement. L'important, c'est d'abord l'intention. C'est s'intéresser, c'est aimer, c'est chercher. Travaillons donc ce domaine en faisant confiance. Le reste suivra à sa façon, en son temps. De toute façon, comme le dit Jésus, quelque part dans l'Évangile selon Luc, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et donc c'est bien là que se trouve la clé. Alors ensuite, comment est-ce que Jésus nous invite à travailler l'intention? Regardons d'abord cette parabole hyper célèbre qui met en scène une brebis perdue que le berger finit toujours par retrouver, nous dit Jésus, et il conclut avec ces mots. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Alors c'est là-dessus que Jésus travaille. Or, se repentir, en grec metanoéo, c'est pas forcément un travail sur nos erreurs passées ou je ne sais quoi, mais cela signifie se tourner vers l'avenir, évoluer dans notre mentalité, dans nos intentions, sur ce qui nous concerne fondamentalement le plus. C'est donc un travail spirituel de Dieu en nous sur l'intention de notre être. Et la joie du succès que développe Jésus, c'est pas tant que nous soyons un bon petit soldat faisant à 99% tout juste, mais c'est qu'il y ait une belle évolution dans notre intention. C'est cela que développe Jésus. Alors comment est-ce qu'il va faire pour susciter cette belle évolution en nous, dans la personne humaine, d'une belle intention? Alors un moraliste le ferait par un dressage, à coups d'ordre, de promesses et de menaces. Ça marche assez bien pour dresser les gens. Pour ça que c'est utilisé. Mais dès lors que Jésus annonce radicalement dans l'Évangile la promesse de l'amour éternel de Dieu, même pour ses ennemis, la promesse est pour tout le monde et la menace ne tient plus. Alors comment est-ce que fera Jésus pour nous aider? Et nous, comment pourrions-nous aider à encourager finalement ceux que nous aimons à porter ce fruit de l'Esprit qu'est la bonne intention? Alors il s'agit à mon avis plus de relever et de prendre soin d'une extraordinaire dimension qui existe en chacun. C'est donc une recherche comme celle de la brebis perdue par le berger. Et puis comme dans cette parole de Jésus, parole très délicate à interpréter, c'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple en qualité de disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alors en première lecture, ça peut sembler choquant, comme si Jésus nous appelait à ne fréquenter que les prophètes, les justes et puis ses disciples à lui. Bien sûr que non. Alors comment lire ce texte? Une clé importante pour le comprendre, c'est que selon la Bible hébraïque, les promesses de la Bible hébraïque, quand le Christ sera venu, toute personne sera alors prophète ou prophétesse, éclairée directement par Dieu. Et donc ce passage de l'Évangile nous appelle à travailler dans ce contexte-là, qui est déjà en cours de réalisation. À nous donc de reconnaître cette part de prophète qui existe dans notre prochain et de l'accueillir en qualité de prophète, comme un prophète. Cela ne veut pas dire que ce prochain, il n'a que des idées géniales, que de belles intentions, bien sûr. Mais cela veut dire que cela existe bien en lui, en elle, en chacun. C'est ce que Jésus nous invite à découvrir, à accueillir. Il peut arriver ensuite que cette qualité de prophète, elle ne soit vraiment que embryonnaire, comme un minuscule petit être, petit prophétillon, à peine capable d'aimer. Eh bien, on peut alors donner à boire à cette bonne dimension de notre prochain, prendre soin de ces tout petits frémissements d'être prophétique, voire même christique, disciple du Christ. Alors c'est ce que Dieu fait pour nous, et c'est ce que nous pouvons faire avec lui pour nous-mêmes et puis pour ceux que nous aimons. Ces bons soins de cette partie prophétique ou christique de chacun, c'est aussi ce que Jésus développe dans un autre passage très célèbre, où il nous appelle à donner à manger, donner à boire, visiter, libérer, ne serait-ce qu'un parmi de ses plus petits d'entre ses frères. Alors là encore, pour comprendre ce que Jésus entend par là, il faut chercher ce que Jésus entend par « mes frères ». Mes frères, nous dit-il, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc là, ce n'est pas non plus une préférence pour n'aider que ceux qui sont des bons chrétiens, bien pieux et bien sages. Ce texte, il est pas non plus, faut pas non plus le prendre comme une leçon de morale, comme il est souvent, trop souvent utilisé dans nos églises pour dire « il faut bien visiter les pauvres, il faut bien donner des sous, il faut bien... » Alors que ce texte est un appel à prendre soin de la capacité de chacun à entendre directement la parole de Dieu dans son cœur et à progresser par cela. Donc, c'est cela qu'il faut développer, soigner, visiter, même quand c'est en prison, c'est la capacité de chacun à s'ouvrir à l'Esprit de Dieu. Nous pourrons alors attendre ce fruit qu'est la bonne intention. La personne alors sera un peu plus en éveil de ce qu'elle aurait à cœur de faire pour faire améliorer le monde, pour aider les personnes autour d'elle, comme le font les Philippiens. Et ce sera alors avec joie, par abondance du cœur, pas par contrainte sous la menace. Et du coup, le don qui pourra être fait, le geste, la parole, aura bien des chances d'être fait avec profondeur, avec respect, avec amour pour la personne, en cherchant ce qui va vraiment aider telle ou telle personne que nous aurons discernée. Mais même dans l'attente de trouver comment donner, l'intention déjà nous travaille, nous nourrit, nous réjouit, comme le dit Jésus, réjouit le ciel, nous grandit et nous prépare. L'intention est donc le fruit, nous dit Paul, et c'est sur quoi insiste saint Augustin. Toute grappe de raisin, lit-on dans une liturgie ancienne, est le fruit du travail des hommes et de Dieu, en équipe. La belle intention est le fruit du travail de Dieu en nous. Et ce fruit, c'est aussi le fruit de notre vision, de notre bon fond personnel. C'est aussi le fruit d'une recherche intelligente de ce qui nous semble être juste et bon dans ce monde. C'est un travail d'observation du monde, des difficultés, des emprisonnements, de ce qui est malade dans notre monde, nous dit Jésus. C'est un travail d'observation et c'est un travail d'introspection pour libérer donc ces lieux d'écoute profonde de l'Esprit de Dieu. C'est un travail personnel, c'est aussi une question spirituelle, car notre bonne intention n'est pas seulement une opinion sur le monde ou une sagesse, mais c'est comme une conscience de nous-mêmes, entre Dieu et le monde, en cet instant même. Et donc cela a tout à voir avec un esprit prophétique, car cela demande de voir les choses de plus haut que nous, dans le fil du temps. C'est ce qui nous permet alors d'ajuster nos intentions, de leur donner une vision plus ample dans le temps et dans l'espace, de leur donner une plus belle clarté, une plus belle beauté et bonté. C'est extrêmement réjouissant alors pour Dieu et pour ce monde qu'il aime tant. Amen.
à la prédication, à la proclamation de la parole. Présentons au Seigneur nos intentions de prière pour le monde et pour l'Église. Prions. Un séisme de grande magnitude a frappé l'Afghanistan, causant la destruction de milliers de maisons et blessant, tuant de milliers de personnes. Prions en silence pour les victimes, pour les familles endeuillées et pour celles et ceux qui soulagent leur douleur. Une guerre civile presque oubliée ravage le Soudan. Elle fait des millions de réfugiés et cause la plus grande crise humanitaire de nos jours. Prions en silence pour les personnes âgées, les femmes et les enfants qui en sont les premières victimes. Prions aussi pour les églises chrétiennes soudanaises et pour le secours qu'elles apportent aux victimes. Ces prochains jours, plusieurs enfants commenceront ou reprendront leur catéchèse dans notre région. Prions en silence pour celles et ceux qui sont engagés dans ces ministères magnifiques. Prions aussi pour les enfants, pour leurs familles, pour que la catéchèse soit pour eux l'opportunité de se rapprocher davantage du Christ. God of the pilgrims, God of the travelers, we pray for the visitors who have joined us for worship this morning. May your Holy Spirit bless them and their beloved ones, bless their travels and their time of worship with us, so that they may leave this place in joy and in peace. Et ensemble, nous prions comme le Seigneur nous a appris, en disant et en voix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Un grand merci, Oder, pour ta prière. C'est, je trouve ça tout à fait touchant et inspirant, c'est le cas de le dire. Merci pour cette profondeur. Merci à Vincent Thévenat pour l'extraordinaire beauté de ses interprétations. Ça donne à notre culte, qui serait sinon trop réformé, voilà, vraiment une respiration de beauté et d'inspiration aussi. Donc, merci. Alors, on est en pensée à ce dimanche, avec le groupe de la paroisse qui est allé dans les Cévennes à l'Assemblée du désert, qui a lieu en ce moment même, enfin, le culte commence à 11h, si je me souviens bien, quand j'étais là-bas, pasteur à Nîmes. Et donc c'est vrai qu'une année ou l'autre, vous pourrez vous joindre à ce groupe. C'est vrai que c'est assez touchant d'avoir ce culte avec des milliers de protestants sous les chaînes. C'est assez prenant. Alors comme le disait Oder, nos groupes de catéchisme ont bien repris. Moi je m'occupe d'un groupe de catéchisme de jeunes de 15-17 ans, avec Chloé Dorsa, que vous connaissez sans doute. Alors c'est le mardi et je trouve que ce groupe de jeunes, c'est pas facile à 15-17 ans, ils réfléchissent vraiment et pour eux je crois que c'est une vraie chance. Alors il y en a qui hésitaient à venir en disant « mais je suis pas très croyant, voire pas du tout », mais ça fait rien. Qu'on soit catholique, protestant, agnostique ou athée, mais intéressé à se poser des questions à partir de ce patrimoine incroyable qu'est la Bible, de toute façon c'est extrêmement profitable. Mais même les groupes plus jeunes aussi, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de lieux dans notre société où des jeunes peuvent travailler leur intériorité, leur questionnement, la question du pardon, du rapport à l'autre, du rapport à la transcendance. Et donc je pense que c'est quand même très utile d'avoir, pour élever un enfant, d'avoir, oui, du sport, de la musique, des études, de l'amitié, de l'affection, de la tendresse, mais aussi une place pour ce travail sur l'intériorité. Alors c'est ce que nous offrons, je dirais, on y met en tout cas tout notre cœur, et c'est avec joie si vous avez, voilà, des enfants dans votre entourage. Moi je compte beaucoup sur les grands-mères, c'est elles qui ont souvent un rayonnement extraordinaire auprès de leurs petits-enfants pour les convaincre de travailler un peu là-dessus. Les grands-pères ont le droit aussi de faire ce travail, je ne dis pas, mais quand même. Alors merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir constitué cette assemblée. Chaque personne compte et ça fait vraiment du bien de pouvoir ainsi se retrouver et faire corps. Maintenant nous allons prendre le cantique 363 et pendant le chant de ce cantique, eh bien, nos conseillers de paroisse vont recueillir notre offrande. C'est un geste spirituel là aussi qui marque savoir qui dans notre être dirige. Alors 363, à toi mon Dieu, mon cœur monte, Créateur qui te donne la vie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dans la mesure où nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et pour cela, nous recevons la bénédiction de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui nous rassemble en un corps sont avec chacune et chacun de vous, dès maintenant, sont sur les personnes à qui vous pensez, ici et au-delà, pour toujours. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.